France Musique. Les trésors de France Musique, Françoise Monteil.
Bienvenue à tous, à l'honneur de nos trésors aujourd'hui, l'éditeur musical et fondateur du label discographique Harmonia Mundi, Bernard Coutaz. Invité de France Musique au micro d'Olivier Bernager en 1989 à l'occasion du 30e anniversaire d'Harmonia Mundi, Bernard Coutaz nous raconte dans quelles circonstances il est devenu éditeur phonographique et comment il conçoit ce métier toujours au service des musiciens. Il nous parlera aussi du contre-ténor Alfred Deller, dont la rencontre fut aussi enthousiasmante que déterminante pour Bernard Coutaz et Harmonia Mundi. Voici le premier volet de cet entretien. Nous étions sur France Musique le 4 février 1989 dans l'émission nocturne d'Olivier Bernager, La terrasse des audiences au clair de lune.
En 30 ans, il a édité presque toute la musique ancienne. En 30 ans, il a fondé une des plus grosses entreprises d'édition phonographique et de distribution française. En 30 ans, il a participé activement à la résurrection de la musique ancienne. Il est donc aujourd'hui un PDG comblé qui touche depuis peu au livre. Sera-t-il en ce domaine également le découvreur qu'il a été pour le disque ? L'avenir nous le dira. Pour l'instant, il se rappelle avec un brin de nostalgie. Bernard Coutaz, pour vous éditeur, qu'est-ce qu'il est fondamental de restituer ?
Attendez, c'est une question que j'avais... On n'avait pas convenu ça, vous ne m'avez pas dit que vous alliez me poser cette question. Qu'est-ce qu'il est fondamental de restituer ? C'est difficile parce que, de toute façon, lorsqu'on enregistre, on fait un peu de la musique en conserve. On a le temps de perfectionner la prise de son, d'éliminer toutes les erreurs le plus possible, d'essayer d'approcher d'une version aussi parfaite que possible. Alors pour répondre à votre question, il y a deux choses. D'une part, la qualité est vivante d'une interprétation, ce qui est... Un peu difficile à mettre en boîte, comme nous disons dans le métier, parce que les musiciens sont avant tout des comédiens, des gens dont la vocation est de jouer pour un public présent devant eux, avec tout ce que ça suppose comme interaction entre eux et le public et eux. Le musicien, c'est un homme de concert qui a besoin de la réaction des autres pour faire mieux. Dans un studio, devant un micro, c'est déjà plus difficile à trouver cette vibration. Donc, l'effort d'un marchand de disques, c'est d'essayer de mettre les musiciens dans une atmosphère de confiance, de suppléer avec peu de personnes à la présence du public en leur manifestant notre intérêt, notre passion, notre admiration pour donc restituer l'émotion parfois même la faire naître. Et la deuxième condition, c'est de restituer les sonorités, les timbres le plus fidèlement possible. Mais aujourd'hui, c'est une technique qui est à peu près maîtrisée. Il y a tout plein de très bons preneurs de son qui restituent la vie encore mieux en prise de son analogique qu'en prise de son numérique. Mais enfin, c'est un autre débat.
Mmh. Vous estimez donc qu'il y a une connivence qui doit exister entre vous autres, qui êtes finalement du côté de l'enregistrement, de la technique, de la cuisine, et les artistes qui sont, eux, les messagers des compositeurs. Et
en cela... oui, elle est nécessaire. Je me souviens de la terreur d'un musicien qui, avant d'enregistrer chez nous, avait enregistré dans une autre maison. Je ne vais pas dire le nom. Et qui avait été convoqué pour enregistrer au studio, je crois que c'était à Rome. Et il est arrivé, il a vu le concierge qui lui a donné le numéro du studio. Il est allé s'installer dans le studio à l'instrument. Puis une voix est tombée d'un haut-parleur. « Vous pouvez commencer !» Alors il a commencé, il a joué. Il était totalement perdu. Il ne savait plus ni pour qui, ni pourquoi, ni si c'était bon, ni si c'était pas bon. Puis quand il a eu fini, parce que la partition était terminée, la même voix lui a dit « Merci !» Et il est reparti, il a revu le concierge. Évidemment, ça ne met pas dans de bonnes conditions pour faire de la musique.
Ouais. Je lisais l'autre jour un article que Godard écrivait en préface à cette série de films qui va faire sur l'histoire du cinéma, où il disait qu'un bon film... C'était toujours une rencontre entre une équipe technique, un lieu et une équipe artistique.
Oui, c'est pour ça d'ailleurs que nous n'avons plus d'équipe technique permanente. Pendant longtemps, presque depuis les origines d'Harmonia Mundi, nous avions toujours eu une équipe de preneurs de son, directeur musical permanent. Mmh. Et puis, à l'usage, avec le temps, je devrais dire à l'usure et à l'usure du temps, ça collait plus parce que tel chef, tel artiste ne s'entendait plus tellement bien ou avait des reproches ou avait un contentieux. Mmh. Enfin, et plus nous avancions, plus nous étions souvent amenés à demander à des personnes étrangères à la société de venir faire la prise de son. Si bien qu'un beau jour, on a dit, bon, ben, on va tout arrêter. Nous n'avons plus d'équipe permanente de prise de son, mais par contre... un carnet d'adresses d'équipes qui soient en France, en Italie ou en Allemagne. Non, parce que ce sont toujours les mêmes quand même avec lesquels nous travaillons, mais qui sont choisis.
C'est-à-dire qu'un tel a une compatibilité d'humeur avec tel artiste, donc on ne les met pas ensemble, ce qui est une gestion familiale.
Non, au contraire, on met tel artiste aime beaucoup travailler avec un tel. Bon, ben on sait qu'il est abonné et le résultat est meilleur. Oui, cette connivence est absolument nécessaire. Et ça revient toujours à ce que je disais au départ, à savoir que devant un micro... Un artiste n'est pas dans une position normale.
Absolument.
Donc, il faut qu'il sente très fort la présence en cabine de quelqu'un qui l'écoute et qui lui dit ça va ou ça va pas.
Mm-hmm. Harmonia Mundi, c'est l'harmonie du monde.
Ah oui, c'est la traduction. Oui, oh, c'était peut-être il y a 30 ans ce qui me restait de mon côté boy scout, mais enfin, c'est pas plus mal, non?
Yeah.
C'était là, je crois, Bernard Coutaz, le premier enregistrement que vous ayez publié.
Oui, il y a 30 ans, les chants de la liturgie slavonne, enregistrés avec un chœur de moines à Cheftogne, en Belgique. Ne me demandez pas pourquoi il y a un monastère de rite oriental en Belgique. Je crois que j'ai oublié, mais en fait, il y a encore une communauté de moines qui officient selon le rite oriental particulier slavon.
Alors comment ça vous est venu, cette idée ?
Oh, par relation, comme la plupart des idées et la plupart des découvertes que l'on fait. Et c'était intéressant et ça demeure intéressant. Enfin, ce premier enregistrement, je le trouve pourvu d'une certaine signification. D'abord, il est toujours au catalogue depuis 30 ans et il y a encore tout plein de gens qui aujourd'hui font la démarche d'acheter ce disque parce que ça correspond à quelque chose. Et je crois effectivement que ça correspond à quelque chose. On le sent quand on écoute cette musique. Les moines de cette communauté ne sont absolument pas gênés par la présence du micro parce qu'ils s'en tapent. Leur musique, c'est un dialogue avec
Dieu.
Dieu. Ouais. Et donc, ils ont vite fait d'oublier le micro pour se retrouver dans une position normale d'avoir à pratiquer la musique.
Et comment vous êtes venu à enregistrer, à être éditeur ?
Oh, ça, c'est une histoire canularesque. J'ai déjà raconté ça. J'étais journaliste et mon ignorance dans le domaine musical était suffisamment connue de mes confrères pour qu'un jour, il m'ait mis au défi de réaliser un disque. Et j'aime beaucoup les défis. Donc, je suis allé proposer un programme de disque à Eddie Barclay, qu'il a accepté.
Qu'est-ce que vous lui avez proposé à Eddie Barclay ?
En fait, je ne me mouillais pas beaucoup. Comme journaliste, j'avais l'occasion de rencontrer un certain nombre d'écrivains. Et donc, proposé à Barclay une série de textes d'auteurs dits par les auteurs.
Ah oui, c'était même très à la mode, c'est vrai.
Oui,
c'était à l'époque, il y avait des collections de voix, comme
voilà.
Ça, les voisines.
Donc,
etc.
Bon, je me souviens.
Alors, il y avait qui
il y avait Mauriac, il y avait Massignon. Barclay a marché. Il m'a flanqué de deux techniciens pour aller enregistrer. Alors, pratiquement, je continuais à faire mon métier de journaliste. C'était pas compliqué. Et puis, pour faire joli et gagner haut la main mon pari, j'ai pensé que ça serait bien quand même de mettre un peu de musique. Et j'ai demandé au père Martin de Saint-Eustache, que je connaissais aussi, s'il accepterait de composer un peu de musique pour faire du fondu entre ces différents textes. Non seulement il a accepté, mais il m'a dit « bon, ben je l'enregistrerai moi-même au piano ». Alors le père Martin a composé de la musique et est venu au studio Hoche l'enregistrer lui-même.
Elles existent, ces bandes ?
Elle doit être chez Barclay encore, oui.
C'est dommage que vous n'ayez pas apporté.
Ah,
vous n'aimeriez pas les écouter quand même, vos premiers ?
Non, là...
La voix de Massignon, la voix
dans
de
Dans le
de
catalogue, Harmonia Mundi, on vient d'écouter les chants de la liturgie slavonne, mais c'est un disque, c'est un enregistrement qui est présent au catalogue. Par tempérament... Je pense qu'il vaut mieux dans la vie tourner les pages gentiment, mais les tourner nettement et définitivement. Et je ne collectionne ni les enregistrements que j'ai faits, ni les photos de famille. Je suis quasi, bien que vous m'invitiez pour un anniversaire, je suis quasi un homme sans passé.
beau, cette musique espagnole.
Oui, sur un orgue espagnol, à Covarrubias. Oui, en plus, et nécessairement, ça a été Covarrubias, d'ailleurs, aussi le premier.
Où est-ce qu'il est, ce village de Covarrubias?
Oh, il est en Castille, quelque part dans la montagne.
C'est un tout petit endroit, alors c'est vous qui l'avez découvert ou
c'est le docteur Rochas.
C'est Rochas,
oui, parce que nous devons une partie importante du catalogue Harmonia Mundi, une première partie à un ami médecin à Brignoles, dans le Var, on n'était pas allé le chercher loin, grand amateur d'orgue, organologue, très très qualifié, très compétent, et qui nous a entraînés. Je l'ai rencontré parce que, comme ça, tout bêtement, et parce que c'était à côté, on voulait enregistrer l'orgue de Saint-Maximin.
Il était en état à l'époque ?
Non, à peine, je crois qu'il n'est toujours pas, d'ailleurs. Mais enfin, à cette occasion, il fallait demander la permission au docteur Rochas, qui non seulement...
Pourquoi la permission ?
Parce que c'était lui qui était en charge de l'association qui sauvegardait l'instrument, veillait à sa restauration. Et il a non seulement il nous a accueillis à Saint-Maximin, mais il nous a entraînés à travers toute l'Europe à la poursuite des orgues. Et le premier, justement... c'était Covarrubias, en Espagne, où on peut... on a rafistolé l'instrument parce que, bon, c'était quand même
Francis
des réalisations.
Chaplet, donc,
Francis Chaplet, ouais. Qui était au clavier. Puis on a emmené Chéron, un facteur d'orgue. Ce qui veut dire qu'avec quatre personnes dans une 4 chevaux ou dans une 2 chevaux, plus exactement, avec un micro, on pouvait réaliser un disque. C'était financièrement à notre portée. Mais c'était passionnant parce que on a comme ça redécouvert des musiques qui avaient été écrites, comme c'est le cas là, pour tel type d'instrument, ou inversement des instruments qui avaient été construits pour rendre compte des musiques. En tout cas, c'était un fait, contrairement à ce qui se passait à cette époque-là, c'était il y a 30 ans, on voulait montrer, c'était le propos de Pierre Rochas, qu'on ne pouvait pas jouer toutes les musiques d'orgue, de la musique espagnole, la musique italienne, en passant par Bach, sur le même instrument. Ce qui se faisait à l'époque.
Et là, vous étiez pionnier. Ouais.
Là, on était vraiment en avance, oui, pour rendre compte de ces musiques, avec, par exemple, des chamades, des nazars qu'on ne trouve que sur des instruments de facture espagnole, et qui rendent compte de cette musique. Jouer à Saint-Sulpice, ça n'a plus du tout la même couleur, c'est clair. Et donc, avec Pierre Rochas, on a fait un tour d'Europe, comme ça, quelquefois réparant, retapant des instruments avec du scotch et de la ficelle. Ça ne tenait pas toujours le temps d'enregistrement, alors on mettait du scotch.
Et déjà à cette époque-là, vous disiez, ça y est, je suis éditeur phonographique.
Ah oui, là, j'avais conscience d'être éditeur, ce qui a toujours été mon métier d'ailleurs. Et je n'ai pas vu de différence.
Vous aviez quel âge ?
Eh ben, j'avais 30 ans de moins. Hein.
Il veut pas le dire.
Oui, non, j'avais un peu plus de 30 ans. Et j'ai pas une coquetterie, mais c'est parce que je me rappelle pas quel âge j'avais à cette époque-là. Et donc, j'étais journaliste et éditeur de livres aux éditions ouvrières. Et je suis passé comme éditeur de disques sans gêne, contrairement à ce que pensaient mes petits camarades, parce que c'est le même métier, éditer, c'est chercher, s'enthousiasmer naturellement pour une œuvre et s'enthousiasmer tellement qu'on a envie de la faire connaître. C'est ça, me semble-t-il, la démarche essentielle d'un éditeur. Ça a toujours été mon métier et ma démarche.
Je suppose que dans un sens, vous allez me répondre oui. Enfin, des artistes vous ont fait découvrir des œuvres. Mais est-ce que vous avez eu envie, vous, de monter des œuvres complètement méconnues, que des artistes vous suggéraient pas et que vous deviez convaincre ?
Pas tellement, non. Pas tellement. C'est surtout dans l'autre sens que ça a fonctionné. Soit c'était la découverte d'un artiste, l'émerveillement, comme ça a été le cas avec Alfred Deller. Et avec lui, toute une période, tout un répertoire qui venait. Et puis après, à partir de liens créés, tout naturellement, avec des artistes, leurs désirs, leurs envies, leurs suggestions. Et au fond, dans cette manière d'être, nous nous mettons au service des artistes.
Oh, sweet.
extraordinaire comme sonne, cette voix d'Alfred Deller. Ce que je trouve très beau dans sa voix, c'est tous ces coloris, tous ces chatoiements. Et on n'a pas une voix qui est complètement une et indivisible. On a 100 voix en une.
Si on dit que la voix est un instrument, que c'est le plus bel instrument, enfin tout ce qu'on veut, jamais je crois, autant comme dans le cas d'Alfred Deller, on a le sentiment de la voix instrument. Il joue de sa voix. Peut-être que le registre de haute contre le favorise davantage, mais vraiment, il joue de sa voix comme d'autres jouent du violoncelle. Il s'est en tiré toutes les richesses harmoniques, il s'est en tiré toutes les émotions, il s'est même sollicité et piégé nos propres émotions. Alfred Deller avait... D'abord, la voix de haute contre consomme peu d'air, c'est pour parler comme en termes mécaniques. Et de plus, Alfred Deller, qui était un grand bonhomme, avait une cage thoracique énorme. Il emmagasinait beaucoup d'air et il était comme une sorte de cornemuse. Ça ne s'arrêtait pas. Et il savait jouer en comédien accompli avec le rythme respiratoire qu'il arrivait à imposer à son public. S'il y a des moments où j'ai vu se vérifier l'expression « couper le souffle », c'est bien lors des concerts d'Alfred Deller, parce que c'est vrai, lorsque un chanteur vocalise, surtout de manière fort agréable, on essaie instinctivement d'accorder sa respiration à la sienne, de retenir son souffle jusqu'au bout de sa phrase. Et ce diable d'homme le savait tellement qu'il ralentissait volontairement le tempo sur une fin de phrase. Et il savait que tout le monde était là, attendre, retenant son souffle. Et juste avant la fin de la phrase, Coutaz, il reprenait une remontée chromatique sans avoir respiré. Et alors, on se trouvait comme ça, désemparé et très ému. C'est vraiment un chanteur extraordinaire. Bon, j'aime pas beaucoup les compliments hyperboliques, le dithyrambe, mais quand même, je crois que Alfred Deller est un chanteur, un musicien hors classe.
Et dans la vie, il était comment ?
Fascinant. En plus, très attachant. Là aussi, ça a été une rencontre fortuite lors d'un concert à Avignon. C'était bien le premier haut de compte que j'entendais de ma vie. Et nous étions allés au concert avec la toute petite équipe qui constituait alors Harmonia Mundi. On a été tellement enthousiasmés que à la fin du concert, on lui a sauté dessus en lui disant combien on en tremblait. Vraiment, c'était l'enthousiasme non fin.
Et comment il a pris ses compliments ?
Ben, il a bien pris. Je sais pas, on lui a même pas demandé son avis. On l'a embarqué, lui, les membres de son consort et leurs valises dans les deux voitures avec lesquelles nous étions descendus de Saint-Michel-de-Provence à Avignon. Et sur un magnifique malentendu, on les a embarqués, eux croyant venir à la réception traditionnelle après le concert, et nous les emmenant à Saint-Michel comme pour un rapt. Au bout d'une heure de voiture, et Alfred a commencé à demander si c'était encore loin, le restaurant. On lui a expliqué qu'il n'y avait pas de restaurant et que si on réussissait à faire une omelette en arrivant, ce serait déjà pas mal, mais qu'on était tellement heureux de l'avoir embarqué qu'on ne voulait plus le quitter. Et de fait, on a quand même fait une omelette, oui.
Aux truffes.
Et bu du vin. Je ne sais pas s'il y avait des truffes. Et on a passé toute la nuit avec l'ensemble et Alfred Deller à rire, à essayer de se séduire l'un l'autre. Et depuis cette nuit-là, c'est une espèce de coup de foudre. Alfred Deller n'a jamais enregistré ailleurs. que Harmonia Mundi, jusqu'à la fin de sa vie en 1979. Cette année, nous allons fêter aussi, si on peut dire, célébrer, fêter, oui, sa disparition, car il reste pour moi toujours présent dans ses enregistrements, mais de façon très émouvante. Enfin, c'est.
Thank you.
Là, Bernard Koutaz, nous avons abordé une musique qui vous est chère et pour laquelle vous militez avec une certaine constance.
Oh, militer, j'ai pas beaucoup de tempérament de militant, enfin, du moins, je l'ai eu, mais plus tellement. Non, vraiment, oui, Gesualdo, c'est la grande fidélité musicale d'Harmonia Mundi, parce que on a commencé à publier des madrigaux dans la version avec les solistes milanais dirigés par Angelo Effrichian, et il doit y avoir 25 ans. On n'en parlait pas beaucoup à cette époque de Gesualdo, et on avait pu, avec Angelo Effrichian, enregistrer tous les madrigaux. Et puis après, on a pu enregistrer tous les motets avec Alfred Deller. Au fond, c'est la même musique. Hein. Gesualdo écrivait des madrigaux, il a trucidé sa femme, il a écrit des motets. C'est-à-dire qu'il a changé les paroles, mais la musique est la même. Et on a eu cette fierté de présenter au catalogue Harmonia Mundi pendant des années et contre tout critère de rentabilité, mais en permanence, l'intégrale de l'œuvre de Gesualdo. C'est un des grands moments de la musique de tous les temps.
Et maintenant, vous refaites cette intégrale avec Les Arts Florissants de William Christie.
Oui, parce que bon, la première version avait été faite en collaboration avec une petite maison italienne qu'avait fondée Giovanni Pirelli, un ami d'Angelo Effrichian, etc. Enfin, tout ça se passait, c'était déjà l'Europe. Et puis, à la mort de Giovanni Pirelli, la succession était tellement compliquée qu'on n'a plus su si on avait le droit de continuer à exploiter ou pas ces bandes. Donc oui, nous recommençons avec Les Arts Florissants, les madrigaux, en conservant les motets avec Alfred Deller. Bon, il y a des musiciens comme ça qu'on est heureux de servir jusqu'au bout. Bon, l'œuvre de Gesualdo est relativement modeste quantitativement. On a pu faire l'intégrale. Mais il en va de même pour quelques grands noms comme ça, Monteverdi, Purcell. Chaque fois que l'on fait un enregistrement de Monteverdi, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on cherche à enregistrer tellement d'autres choses? Finissons d'abord toute l'œuvre de Monteverdi, qui est un véritable monument. On passera à autre chose après. Puis effectivement, les musiciens, les circonstances font que on va à d'autres compositeurs, et c'est bien. Mais vraiment, chaque fois qu'on réalise un Monteverdi ou un Purcell, je me dis, mais qu'est-ce qu'on a à chercher autre chose?
Il y a quand même quelques petits Beethoven, quelques petits Mozart, oui, quelques petits Weber. Il y en a d'autres que vous éditez d'ailleurs aussi. Mais je trouve que Bernard Koutaz, que vous êtes avec votre maison d'édition, vous êtes trouvé à une charnière dans l'interprétation de la musique ancienne, et que je suppose consciemment, vous êtes dit, ben voilà, il y a une nouvelle manière d'interpréter cette musique là. Oui. Et moi, je vais éditer cette nouvelle interprétation.
Oui.
D'abord, question, est-ce que vous l'êtes dit, ça? Est-ce que
oui,
vous êtes dit ça?
Oui, mais ce n'est pas nous qui l'avons inventé, hein, ce sont les musiciens qui... Bon,
ce sont les musiciens, mais il leur fallait un relais pour être connu quand même, musicien.
On a entendu tout à l'heure un enregistrement d'Alfred Deller. Ça a commencé avec lui. D'abord, la découverte de ce répertoire baroque avec Alfred Deller. Mais aussi, cela a valu à Harmonia Mundi l'attention de musiciens, parce que Alfred Deller était soit leur maître, soit leur idéal, et enregistré dans cette maison qui avait enregistré pendant 15 ans Alfred Deller, ça a pu intéresser certains, et ils sont arrivés avec des idées très précises sur l'interprétation de la musique baroque. Et là, de nouveau, on retrouve une démarche un peu qui était la nôtre, pour les enregistrements de musique d'orgue, c'est-à-dire que ces musiques peuvent être parfaitement ennuyeuses si elles ne sont pas enregistrées sur le bon instrument, et la musique baroque, si elle n'est pas enregistrée en connaissant justement la technique de l'interprétation baroque, ça peut être ennuyeux, tristounet. Et là, grâce à des gens comme William Christie, Philippe Hérévègue, René Jacobs, Je crois que nous avons la chance d'apporter des modèles, enfin sans prétention, mais de l'interprétation de la musique baroque qui fait que cette musique est un plaisir et non pas un ennui.
Non dorme la piada, Maria.
Les arts florissants de William Christie dans des madrigaux de Gesualdo, extrait d'un disque édité par Harmonia Mundi en 1988. Ainsi se referme la première partie de l'entretien que Bernard Coutaz avait accordé à Olivier Bernager en 1989, dont vous pourrez écouter la suite demain. Cette archive de France Musique est disponible en podcast ou à la réécoute sur le site radiofrance.fr ou via l'application Radio France. Merci à Emmanuel Benito, qui réalise Nos Trésors, ainsi qu'aux documentalistes de l'INA pour leur collaboration.
À réécouter sur francemusique.fr.